Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 13 janvier 2018, le monde est passé à un cheveu d'une guerre nucléaire et personne n'en a rien su. Ce jour-là, à 8h10 du matin dans l'archipel de Hawaï, tous les possesseurs de portables ont reçu un message d'alerte indiquant qu'un missile balistique était en train de foncer sur eux. « Ceci n'est pas un exercice », précisait le message. Pendant près de 40 très longues minutes, les habitants de Hawaï ont vécu dans l'incertitude et dans la terreur de l'apocalypse. Certains se demandaient d'où provenaient les missiles, de la Corée du Nord ou de la Russie. Selon la réponse, le temps qu'il leur restait à vivre variait de quelques minutes à 25 minutes. D'autres, terrifiés, se sont précipités dans leur voiture et ont pris la route vers nulle part à 160 km/h, provoquant des accidents en série. Puis la nouvelle est tombée, il s'agissait d'une fausse alerte. Mais encore aujourd'hui, un an plus tard, son origine et ses conséquences font froid dans le dos. Le soldat en charge de la surveillance et de l'envoi de l'alerte n'a pas appuyé sur le bouton d'alerte par erreur, a-t-on appris, mais parce qu'il avait vraiment cru à une attaque imminente en regardant des vidéos montrant en fait un exercice aérien. Si cette erreur d'interprétation avait été commise par le commandement militaire plutôt que par un soldat, le président américain n'aurait pas eu d'autre choix que de lancer de vrais missiles en riposte, déclenchant ainsi la Troisième Guerre mondiale. Quelle différence y a-t-il entre une fausse alerte et une vraie, si toutes les deux entraînent la même catastrophe ? Une apocalypse qui ne s'est pas produite cesse-t-elle d'exister si elle peut continuer à se produire dans un avenir indéterminé ? À l'ère des fake news, du terrorisme mondial et de la crise entre les USA et la Corée du Nord, le monde est-il moins dangereux que durant la guerre froide, ou vit-on au contraire plus près aujourd'hui de sa fin ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean-Pierre Dupuis. Jean-Pierre Dupuis, bonjour.
Bonjour, Marc Weissmann.
Je tire cette histoire de Hawaï de votre dernier livre, des premières pages de votre dernier livre, La guerre qui ne peut pas avoir lieu, qui sort en ce moment et dont on va parler aujourd'hui. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas nécessairement le plus facile de vos livres. Je vais rappeler quelques-uns des titres de vos ouvrages précédents. Et ces titres montrent quand même à quel point il faut vous lire, je crois, pour comprendre les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Avons-nous oublié le mal, penser la politique après le 11 septembre, pour un catastrophisme éclairé quand l'impossible est certain, petite métaphysique des tsunamis, retour de Tchernobyl, journal d'un homme en colère, ou encore la marque du sacré, essai sur une dénégation. Bruno Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'analyse géopolitique et stratégique. Vous avez été successivement directeur de la Commission des affaires civiles à l'Assemblée de l'OTAN, chargé de mission auprès du directeur des affaires stratégiques du ministère de la Défense, visiting fellow à la RAND Corporation. En septembre 2001, vous avez rejoint la Fondation pour la recherche stratégique dont vous êtes aujourd'hui le directeur adjoint et vous avez collaboré à la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale nommée par le président Hollande à l'époque.
Et aussi par le président Sarkozy.
Précédemment, d'accord. Au début des années 2010, vous avez entamé une réflexion sur le catastrophisme. Et vous avez fait un livre, « L'apocalypse n'est pas pour demain », dans lequel vous estimez que le nucléaire limite le risque de guerre.
Tout à fait.
Alors, Jean-Pierre Dupuis, vous êtes manifestement influencé par René Girard, par Ivan Illich, entre autres, et vous vous définissez comme, non pas comme un intellectuel chrétien, mais comme un chrétien intellectuel. Vous avez dit que le christianisme est une science beaucoup plus qu'une religion. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu ce que ça veut dire avant qu'on commence à parler du livre, parce que ça donne un arrière-plan, l'arrière-plan spirituel et métaphysique de votre démarche.
Oui, je ne m'attendais pas à cette question, oui, parce que c'est une question sur l'ensemble de mon travail depuis pas mal d'années.
Oui.
Mais enfin, je suis prêt à répondre. Mais
votre livre s'inscrit dans cette suite.
Oui, mais peut-être moins que d'autres, justement. Enfin, parce que Girard n'a pratiquement jamais parlé, par exemple, et Illich non plus, de la perspective d'une guerre nucléaire. Enfin,
bien sûr.
Et non, c'est un livre... Je dois dire, le grand spécialiste de ces questions, c'est Bruno Tertrais, que j'ai en face de moi, là. Moi, je ne suis qu'un... Enfin, je plaisante, qu'un philosophe, bon, et un métaphysicien, bon, voilà. Mais, comment dirais-je, la question du religieux là-dedans... Bon, il est commun de dire, et je pense que c'est une erreur, mais enfin, que effectivement, l'arme nucléaire est un facteur de paix. Alors, c'est quand même un paradoxe inimaginable, hein. parce qu'elle se neutralise elle-même, en quelque sorte. Alors, traduisons ça en termes chrétiens, puisque vous m'incitez à parler de cette chose. Il y a une phrase dans l'Évangile, prononcée par Jésus dans au moins un Évangile, qui dit « Satan expulse Satan ».
C'est ça.
On peut même interpréter cela comme « seul Satan expulse Satan ». Alors, c'est exactement... Satan, aujourd'hui, c'est la bombe atomique dans la mesure où elle serait capable de s'auto-réguler.
C'est-à-dire, vous écrivez au début du livre, la dissuasion nucléaire est une menace de guerre totale, mais une guerre symbolique, différée. On songe au rituel des sociétés traditionnelles où pour dire qu'on ne fait pas la guerre, on la mime. On est sur le point de la faire, vraiment, et on s'arrête au gouffre. Et donc, effectivement, on expulse la violence vers quelque chose qui devient la violence absolue.
Voilà.
Donc, Satan expulse Satan.
Voilà.
C'est ça.
Alors, un autre de mes détails.
De la dissuasion.
Absolument. Un autre de mes détails biographiques, c'est que je suis à moitié brésilien, au sens que mes enfants le sont, ils vivent au Brésil. Enfin, ils sont brésiliens, ils vivent au Brésil. C'est, il y a quelques jours, on était dans le carnaval. Qu'est-ce que c'est que le carnaval d'un point de vue anthropologique ? Quand j'étais jeune, je suis certainement plus âgé que vous, le Mardi Gras, parce que c'est la fête du Mardi Gras, dont l'origine d'ailleurs, c'est les Lupercales romaines. Hein, c'est bon. On s'amusait à provoquer les passants en leur jetant des boules puantes, etc. Hein. Bon, et certains passants d'ailleurs n'aimaient pas du tout cela. Hein. Mais le carnaval tel qu'il existe encore au Brésil, alors pas à Rio, qui est c'est purement touristique, mais dans d'autres grandes villes du Brésil comme Salvador da Bahia, Recife, etc. C'est une ville entière, peut-être de 10 millions d'habitants, qui mime sa décomposition violente. Mmh. Alors, c'est un mime, c'est un jeu, c'est du théâtre, mais ça peut dégénérer très facilement. D'ailleurs, très souvent, alors je ne sais plus si c'est le cas encore, les journaux occidentaux surtout disent, enfin le Brésil est occidental, mais je ne sais pas, 3000 morts au carnaval de Rio, alors on compte évidemment ceux qui seraient morts de toute manière. Mais c'est vrai qu'il y a des morts, parce que mimer la violence est très proche
de la violence
elle-même, voilà. Bon, alors effectivement, on peut dire que la dissuasion, c'est quelque chose comme ça. C'est pas mimer, mais c'est la dire avec des mots. Alors, dans mon livre, je raconte, parce que je l'ai vécu vraiment avec certains hauts responsables, l'été 2017, j'étais avec un vieil ami de vous avez cité Illich, hein, mm-hmm. que j'ai connu chez Illich, à Cuernavaca, au Mexique, Jerry Brown, qui était, il ne l'est plus depuis un mois, le gouverneur de la Californie, et son grand copain William Perry, qui fut le secrétaire à la défense du président Clinton. Bon, je peux vous dire que ces gens avaient peur. Alors, l'été 2017, alors à vrai dire, je ne sais pas si on en a parlé ici, je pense qu'on en a parlé, mais c'était des insultes les plus grossières, les plus grotesques d'ailleurs.
Entre Donald Trump
et Kim, bien évidemment.
Voilà.
Oui, excusez-moi, il fallait rappeler ça, bien sûr.
Entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Bon, enfin, je ne sais, ça vaut même pas la peine de rappeler. Bon, enfin, petit nain, Little Rocket Man, et puis l'autre vieillard gâteux, enfin,
oui, etc. Oui, échanger des insultes de
foire. Des insultes inimaginables. Et vraiment, certains ont pu penser qu'on était tout prêts. Enfin, que l'un des deux allait, comme dans le carnaval qui mime la violence, allait vraiment devenir violente et appuyer sur le fameux bouton, qui n'existe pas, bien sûr.
À quel moment la mise en scène cesse d'être une... Le jeu
exactement,
cesse
ben, exactement bien cesse évidemment. Bon.
Bruno Tertrais, vous partagez cette analogie entre le théâtre ou le rituel religieux et la dissuasion nucléaire ?
Ah, la religiosité, totalement. C'est d'ailleurs assez frappant de voir qu'il y a non seulement, du point de vue moral et métaphysique, beaucoup de choses à dire sur le parallèle entre l'apocalypse nucléaire. Déjà, le premier mot, apocalypse, c'est déjà parlant en termes spirituels. Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on voit que dans les noms qui ont été donnés au programme, au système, ou même aux essais de systèmes nucléaires, il y a beaucoup de spirituels ou de religieux. Prenons quelques exemples, les missiles français, les anciens missiles sol-sol qui s'appelaient Pluton et Hadès, oui. les dieux les enfers. Oui. Ces missiles, quand on les essayait dans les années 70 et 80, on leur avait donné... Alors les essais avaient des noms d'abbayes cisterciennes. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient des gens qui donnent les noms à ces essais ? Lorsque la procédure extrêmement codifiée, ritualisée justement de la Ve République se passe au moment, généralement le jour même de l'arrivée au pouvoir du président nouvellement élu, du président de la Ve République, il y a un rituel qui est, on va lui présenter ce qu'on appelle la posture des forces nucléaires, et ça a été comparé par certains des généraux qui ont fait cette démarche pour le président, à l'équivalent, enfin c'est plus l'ampoule de Saint-Rémy, mais enfin c'est une sorte d'onction, puisque littéralement ça donne le pouvoir à quelqu'un de vie ou de mort sur la nation. D'ailleurs, on dit souvent que d'ailleurs c'est le moment où le président devient vraiment président.
Oui, quand il peut avoir le doigt sur le fameux bouton.
Quand cette responsabilité extraordinaire et qui lui tombe sur les épaules, quand il prend conscience véritablement de cette responsabilité. Et c'est quelque chose, ce rituel-là, alors il existe aussi aux États-Unis, mais sous une forme différente, en Grande-Bretagne aussi, sous une forme différente. Vous savez, le président de la Ve République, il a ceci de particulier qu'il est élu justement en partie en raison de la possession de la bombe. C'est-à-dire les institutions, le système de nomination, d'élection, au suffrage universel direct, est en partie, on voit par les témoignages de l'époque, déterminé par ceci. Donc, sur les dilemmes éthiques de la dissuasion et sur le dilemme fondamental de la dissuasion, faut-il préparer au mieux l'apocalypse pour qu'elle soit visée? Je pense qu'on se rejoindra volontiers avec Jean-Pierre Dupuis. Je suis un petit peu plus sceptique sur l'introduction que vous avez évoquée, et ça nous permet de parler du risque, justement, à propos de ce qui s'est passé en juin 2018 à Hawaï. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les questions... Moi, j'ai beaucoup étudié les questions de fausses alertes, entre guillemets, de crise, pour savoir justement à quel point nous avons ou nous n'avons pas frôlé l'apocalypse. Est-ce qu'on a eu de la chance ou pas? En gros, on y reviendra peut-être, mais je pense que pour reprendre la formule de Laplace à Napoléon, pour moi, la chance n'est pas une hypothèse nécessaire. Pour moi, les systèmes ont fonctionné. Mais c'est un vrai sujet quand on essaie d'appréhender ce qui s'est passé à Hawaï. C'est un vrai souci, mais c'est pas une alerte militaire. C'est pas les systèmes d'alerte militaire qui ont mal fonctionné. C'est les systèmes de communication de la ville et de l'État. Donc, il n'y a pas eu de risque. C'était terrifiant. Et là, ça dit déjà quelque chose parce que ça nous montre comment une population locale peut être terrifiée. Et effectivement, là où vous avez raison, c'est ça crée déjà des morts puisque on dit souvent, faut-il évacuer une ville s'il y a une menace nucléaire immédiate? Et tous les spécialistes de logistique urbaine savent très bien que le risque, il est déjà d'avoir 200, 300, 3000 morts, 5000 morts, juste avec les accidents de voiture qui se produiraient lors de l'évacuation, alors qu'on ne sait pas encore si la bombe va arriver ou pas. Donc ces dilemmes-là, je crois qu'ils sont réels, et on se rejoindra sûrement là-dessus avec Jean-Pierre Dupuis. Peut-être qu'on aura une évaluation différente de la réalité du risque, la réalité factuelle aujourd'hui du risque, mais en tout cas, ça sera une conversation intéressante.
Oui,
Jean-Pierre Dupuis.
Alors, il y a des points sur lesquels... c'est pas la première fois que nous parlons ensemble, Bruno Tertre et moi, bien sûr. Il y a des accords, c'est clair, mais il y a aussi un désaccord fondamental, je crois. Enfin, même double. Mais c'est pour ça, c'est bien
ça qu'on ait un
désaccord. Enfin, ça permet de discuter, justement. En quelque sorte, le fait que la bombe serait facteur de paix, finalement. Et aussi, bien sûr, et vous venez de le dire, enfin, c'est quelque chose sur lequel vous insistez, que le hasard a très peu de rôle dans tout ça. Alors moi, là, je pourrais, mais j'ai des arguments, bien sûr, pour dire mon désaccord. Mais citer Robert McNamara n'est pas un crime.
Ce n'est pas forcément un argument.
Non, ce n'est pas forcément un argument, bien sûr, mais enfin, je veux quand même rappeler que lorsque Errol Morris, ce grand documentariste américain, lui demande « Mais enfin, est-ce que c'est la dissuasion nucléaire qui a fait qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire ?» Il répond « We lucked out ». Alors, qui est une expression
argotique
oui, parce que « luck », c'est un substantif, c'est pas un verbe, enfin bon, mais qui signifie « Nous avons eu du bol », tout simplement. Mm-hmm. C'est le bol qui nous a, et il dit 32 fois, 33 fois pendant la guerre froide, on est passé « that close », à un cheveu. Du déclenchement. Bon, mais enfin, encore une fois, c'est pas un argument. Mais c'est pas tout à fait ce que je dis, moi, d'ailleurs. Je ne parle pas de hasard, je parle d'accident. Et c'est quand même autre chose. C'est-à-dire, un accident, c'est quelque chose qui se produit, qui n'est pas forcément le hasard, mais que personne n'a voulu. Le sens philosophique d'accident, c'est que quelque chose que personne n'a voulu. Bon, Khrushchev et Kennedy, au moment de la crise des missiles de Cuba, aucun des deux ne voulait la guerre. Bon, mais ils sont passés tout près, puisqu'au dernier moment, ils marchandaient tes missiles à Cuba, les miens en Turquie, etc. Bon, Kim et Trump, dans ce fameux été 2017, aucun des deux ne veut la guerre, mais ils sont quand même passés tout près.
Vous écrivez « La dangerosité est décuplée par la notion d'accident, de hasard. Dans la définition moderne du hasard, telle que vous la donnez dans le livre, c'est que de petites causes peuvent produire de très grands effets. »
Mais justement, je ne dis pas qu'il y a hasard, je dis qu'il y a accident. Bon, une autre manière de présenter la chose, c'est de dire la chose suivante. Mon point de départ, c'est que, d'ailleurs mon éditeur m'en veut pour avoir dit ça, c'est que mon livre sera un flop. Pourquoi ? Parce que tout le monde se fiche du sujet.
Oui, alors...
Tout le monde se fiche du sujet. Alors, mais pourquoi est-ce que les gens se fichent du sujet ? Ben, je le sais, parce que quand je disais l'an dernier, quand j'ai travaillé à ce livre, enfin, il y a 30 ans que je travaille à ce livre, ou alors un été. Bon, l'été dernier, je disais à X ou à Y, des amis ou des connaissances, etc., je travaille sur la guerre nucléaire, et ils me disaient, mais tu crois qu'il peut y avoir une guerre ? Enfin, ça paraît impensable. Et ils ajoutaient, mais d'où viendrait-elle ? Qui en serait la cause ? Mais justement, le tragique, selon moi, c'est que c'est ni Kim, ni Trump, personne ne veut la guerre. Alors, quelque chose que personne ne veut et qui se produit, ben, ça s'appelle un accident. Alors cet accident, ça peut être une mauvaise interprétation d'un message, une fausse alerte, un accédrage même est un accident. Bon, un accédrage, on ne fait pas ce qu'on veut, etc. Voilà. Alors, si c'est un accident, évidemment, c'est comme ça qu'on répond à la question... Qui veut la guerre ? Personne. Et pourtant, elle se produit. Voilà.
Oui, Bruno Tertrais.
Je rejoins totalement Jean-Pierre Juppé sur un point, à savoir que la catastrophe peut se produire sans que personne ne la veuille. J'ai presque envie de parler d'un débat extrêmement actuel qui est celui du Brexit. Le Brexit, nous sommes au bord d'heureusement une catastrophe infiniment moins grave que ne serait une guerre nucléaire. Mais il y a effectivement un scénario que des gens comme vous et moi peuvent envisagé, qui conduit à dire que fin mars, on va tous au bord du précipice et on y va on tombe sans l'avoir voulu. Ça n'est pas forcément le plus probable, mais en tout cas, ce scénario existe. Donc ça, c'est fondamentalement vrai, je crois, pour l'aventure humaine de manière générale, notamment dans les phénomènes de décision collective. Là où je suis beaucoup plus sceptique, c'est sur l'idée qui consiste à dire, qui est très populaire chez les anciens responsables américains notamment, qui, comme s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner de leurs responsabilités passées, sont toujours prompts, à mon sens, à exagérer ou à mal interpréter rétrospectivement ce qui s'est passé par le passé, c'est qu'on est passé tout près de la catastrophe. Je crois qu'il y a un fait indiscutable, et c'est pas le grand métaphysicien que vous êtes qui me détrompera, c'est que la seule certitude que nous ayons, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire. Bien, la deuxième certitude que nous ayons, c'est que lorsque nous reprenons, et vous les connaissez, les pronostics de vos confrères, de mes confrères, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils étaient extraordinairement pessimistes et pensaient que la probabilité d'une guerre nucléaire avant l'an 2000 était extrêmement forte. On retrouve d'ailleurs des chiffres impressionnants. Donc ils ne pouvaient pas croire que ça ne se produirait. Enfin, ils pensaient que le risque était vraiment extrêmement fort. Ça nous amène à 2005. Pourquoi 2005 ? Parce que notre ami commun, j'imagine, Tom Schelling, le grand stratège Tom Schelling, que vous avez bien connu, qui était aussi, même si je l'ai connu plus tard sans doute que vous, un ami, il reçoit le prix Nobel d'économie. Et son discours de récipiendaire n'est pas du tout consacré à l'économie, il est consacré à l'événement qui n'a jamais eu lieu. Qui est un très beau discours d'ailleurs sur pourquoi... Je constate que ce dont on ne parle pas assez, et là je vous rejoins Jean-Pierre Dupuis, c'est le fait que on n'a pas eu de guerre nucléaire, on n'a pas eu d'emploi de l'arme nucléaire depuis 1945. On arrive en 2005 quand même. C'est-à-dire qu'à un moment où on a suffisamment de recul, surtout lui qui a travaillé sur ce sujet dès la fin des années 40, début des années 50, il dit pourquoi, comment. Et donc il dit, voilà, là encore c'est un fait, c'est presque le seul fait indiscutable. Alors là où on peut là pour le coup discuter et se disputer au sens noble du terme, c'est sur le fait de savoir si les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'emploi d'armes nucléaires font qu'il sera moins probable dans l'avenir, ou si au contraire, c'est l'autre vision, la vision pessimiste si vous voulez, que on a été à plusieurs reprises au bord du gouffre et que un certain nombre de facteurs ont fait qu'on n'y est pas. C'est pas forcément la chance, je vous l'accorde. En tout cas, je ne pense pas, et encore une fois, moi j'ai pas besoin de cette hypothèse, je pense qu'on peut expliquer pourquoi. Et là, je vous donne une autre hypothèse possible, c'est la réticence, parfois même la sagesse, en tout cas les responsables militaires et politiques qui ont eu à véritablement mettre leur doigt tout près du bouton, au sens métaphorique du terme bien sûr, ont finalement reculé
souvent au dernier moment. Et on constate d'ailleurs qu'il y a très peu de moments, très très peu de moments où on est vraiment avec le doigt sur le bouton. Il y a un épisode célèbre que vous évoquez dans votre livre et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, moi, à partir des archives soviétiques, c'est ce qui se passe dans un sous-marin soviétique à côté de Cuba, où, alors là, et là on peut discuter sur l'histoire, parce que l'histoire n'est pas si quelque chose, c'est pendant la crise de Cuba, en 62. En 62. Et donc c'est un sous-marin.
Archipov. Voilà. Notre vie, là, nous, tous les trois, à Archipov.
Un officier.
Pas à mon sens, puisque le mythe qui s'est construit, à mon sens, autour de ce qui se passe dans ce sous-marin où il fait une chaleur épouvantable, où ils n'ont plus d'instructions de Moscou, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, à mon avis, le mythe qui s'est construit, c'est de dire qu'il y avait trois personnes qui devaient être d'accord, et finalement, les deux premières sont d'accord, et la troisième dit non, je ne tirerai pas. À mon avis, je pense à l'examen des archives disponibles, des témoignages disponibles.
Parce qu'ils se croyaient attaqués, hein, il faut rappeler pour les auditeurs.
Ah ben oui, mais parce que les Américains, à ce moment-là, on est dans le brouillard de la guerre. Les Américains, à ce moment-là, commencent à balancer des charges pour faire sortir, faire bouger le sous-marin. Et donc, le sous-marin n'est pas attaqué directement.
Mais il se croit attaqué.
Donc, c'est une vraie, c'est la situation de crise. J'allais dire, c'est l'archétype de la situation de crise nucléaire. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu d'équivalent depuis. C'est important. Donc, peut-être qu'on est passé à ce moment-là tout près de la guerre nucléaire. Certains témoignages disent qu'en fait, finalement, ils ont juste pris la décision de dire, bah non, on va quand même pas faire ça. Alors après, la deuxième réflexion qu'on peut avoir, vous comme moi, et je ne sais pas si on aura les mêmes idées ou pas, imaginons que le sous-marin soviétique tire la torpille nucléaire, c'est des torpilles sous-marines. Est-ce que c'est nécessairement le déclenchement de la guerre nucléaire généralisée? Certains diraient oui, à cause des mécanismes d'escalade probablement inévitables. D'autres diraient, comme Herman Kahn, un autre grand stratège, très provocateur dans son style, mais avec des arguments aussi, qui dit, il y a, et je le cite de mémoire, il y a à peu près autant de chances pour qu'à ce moment-là, tout le monde était tellement terrifié par ce qui vient de se passer, que les pressions pour calmer le jeu auraient été au moins aussi grandes que la probabilité d'une escalade généralisée. Je ne sais pas s'il a raison. Je ne suis pas là pour dire tout va bien, il n'y a pas de risque nucléaire. Si, bien sûr. D'ailleurs, on ne peut pas croire que la dissuasion est un système efficace si on ne croit pas qu'il y a de risque nucléaire. C'est le paradoxe que vous soulignez, un des nombreux paradoxes de la dissuasion sur lequel on se retrouvera. Mais donc, tout ça pour dire que il y a une interprétation possible des événements passés et du risque nucléaire en général. Il y a d'autres interprétations possibles. Je ne dis pas que la mienne est forcément la bonne, l'interprétation traditionnelle, notamment aux États-Unis, me paraît mériter de se discuter.
Ce qui est fascinant quand même, c'est que au bout de 70 ans de guerre froide, et alors que les arsenaux nucléaires existent toujours, et au bout de tonnes d'études sur le sujet, on ne sait toujours pas pourquoi l'apocalypse nucléaire n'a pas eu lieu. On ne sait pas exactement grâce aux procédures ou par hasard.
Mais, si vous voulez, c'est pourquoi il faut faire de la métaphysique, enfin disons de la philosophie. Tout simplement parce que tout ça tourne autour d'un événement qui n'a pas eu lieu et dont tout le monde souhaite qu'il n'ait pas lieu. Bon, donc on est obligé de faire de la philosophie et en particulier de ce qu'on appelle, en philosophie mais aussi en linguistique, des contrefactuels. Que se serait-il passé si? Alors nous, Français, nous connaissons bien cela depuis Pascal, si le nez de Cléopâtre eût-il été plus long, eh bien l'histoire de Rome aurait changé du tout au tout. Bon, alors, il n'y a pas, quand on fait des contrefactuels ou de l'histoire, on parle aussi d'histoire virtuelle, ben, là il n'y a pas de relation. Enfin, les relations de cause à effet interviennent, bien sûr, mais il n'y a pas de preuve possible, bien évidemment. Alors, un scénario possible imaginé par exemple par Daniel Ellsberg dans son dernier livre de Doomsday Machine, enfin on pourra revenir sur le livre d'Ellsberg qui m'a beaucoup impressionné, c'est que si le sous-marin soviétique avait tiré, à ce moment-là, il y a un point très important, c'est que les Américains ne savaient pas que les sous-marins soviétiques étaient dotés d'armes nucléaires. Donc, alors ça, on reviendra sur ce point, parce que peut-être, enfin, il y a tellement de choses à discuter. Alors, qu'est-ce que les Américains auraient pensé? Eh bien, que l'attaque venait de Cuba. Or, Kennedy avait dit très nettement que si une telle chose se produisait, alors il lancerait ses missiles, non pas sur Cuba, mais sur Moscou et Leningrad, et ce qu'on veut.
C'est-à-dire que l'information est cruciale dans la gestion de la dissuasion.
Oui. Mais, alors, effectivement, là, il y a une information qui manquait, à savoir que les... immédiatement, on en vient à une autre question. Comment se fait-il que les Américains ne savaient pas cela? Mais alors, le point, c'est pas qu'il ne faut pas s'étonner que les Américains ne savaient pas, parce que, tout simplement, ils avaient une mauvaise intelligence, en fait, un mauvais service secret, comme on dit en anglais. Bon, c'est qu'ils n'en avaient pas informé les Soviétiques. Mmh. Plutôt, excusez-moi, que les Soviétiques n'avaient pas informé les Américains.
Oui, oui, oui.
Mais si la dissuasion était vraiment la règle là,
ils les auraient informés.
Pour que
la dissuasion marche, ils auraient dû leur dire.
Ben évidemment.
Alors, il faut pour bien comprendre quand même, pour essayer d'expliquer aux auditeurs de quoi on parle exactement, il faut rappeler le principe de la dissuasion parce que et toute la culture que ça a créé. C'est vraiment un langage et une culture qui s'est créée après les explosions à Hiroshima et Nagasaki.
Oui, mais qui en fait.
Qui en fait est très simple. Oui, mais il faut quand même on a en 47 la création de l'horloge de l'apocalypse par un groupe de physiciens qui mesure la probabilité ou la proximité théorique d'une apocalypse nucléaire possible, qui existe toujours, hein, horloge qui existe toujours. Et puis on a la base de ce qu'on va appeler le Mutual Assured Destruction, MAD, le système MAD, qui fait en sorte que c'est ça la base, en fait, de la dissuasion. Deux puissances nucléaires se font face, elles sont vulnérables parce qu'elles peuvent mourir de l'agression de l'autre, mais elles sont aussi invulnérables, je vous cite, hein, oui, puisqu'elles peuvent faire mourir leur agresseur en représailles. Et le truc...
C'est-à-dire que chacun des deux, s'il est attaqué, conserve une capacité de seconde frappe.
De riposte. Et le truc, pour que ça marche, pour qu'une confiance soit établie entre les deux partenaires, c'est qu'aucun des deux ne se défende.
Exactement.
C'est-à-dire que les populations civiles doivent être offertes en holocauste potentiel. Exactement. À l'autre, parce que bon. Si jamais des mesures sont prises pour défendre les populations civiles, à ce moment-là, l'autre puissance va penser qu'une attaque est imminente et attaquera d'abord.
Parfaitement.
Bon. Oui, c'est ça la dynamique perverse.
Oui, avec une petite limite tout de même. C'est la construction, j'allais dire, très théorique des années 1960. Aujourd'hui, sur le plan pratique, la dissuasion, c'est quand même un peu différent. Vous parlez des populations civiles. Les pays occidentaux s'interdisent aujourd'hui de prendre les populations civiles en tant que telles, je souligne trois fois en tant que telles, parce que là on a une question juridique et morale extrêmement intéressante, mais il n'y a pas de raison que les populations civiles elles-mêmes soient directement concernées. Même si je m'empresse de dire qu'aucune frappe nucléaire sur un objectif militaire ne fera du zéro mort. Mais il y a une énorme différence à la fois physique en termes de nombre de morts, parce que, pardonnez-moi, mais on va demander aux premiers concernés si entre 2000 morts, c'est pas la même chose que 2 millions de morts.
Oui, mais la question qui pose, c'est à quoi sert une bombe atomique qui ne tombe pas sur un objectif civil?
La dissuasion ne s'adresse pas, c'est techniquement inexact, même si encore une fois, le nucléaire, ça fait toujours beaucoup de morts, on est d'accord. Mais le nucléaire, ça s'adresse aujourd'hui, et là c'est assez général, pas seulement occidental, on cherche à savoir ce à quoi l'adversaire tient le plus, ce qu'il fera le plus mal si on tire dessus, et donc ce qui le dissuadera. Par exemple, en France... on a décidé que ça serait ce qu'on appelle les centres de pouvoir, donc un certain nombre d'objectifs politiques, économiques, militaires, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les populations civiles n'en souffriraient pas, bien sûr que si. Mais il y a une différence à la fois technique, philosophique et morale et juridique entre s'adresser directement en disant « je veux faire un certain nombre de millions de morts », c'est comme ça qu'on raisonnait dans les années 60, et même beaucoup plus tard, même jusqu'aux années 80 pour la France et pour d'autres pays, et dire « je cherche à m'adresser à ce qui peut faire le plus mal à l'adversaire ».
Revenons à l'été 2017. Trump menaçait la Corée du Nord de la supprimer complètement. L'Iran, dans la mesure où il promettait de supprimer Israël, etc. Alors ça c'est bien les populations civiles.
C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, c'est que même si les techniques de dissuasion ont évolué, la logique qui sous-tend l'ensemble de la dissuasion, c'est-à-dire l'idée que les populations civiles sont offertes en holocauste d'une part, et l'idée que le dirigeant d'une puissance nucléaire doit jouer à la fois la rationalité et la folie, c'est-à-dire se dire prêt qu'il va sacrifier une population.
Non, c'est autre chose.
Finis ma phrase pour essayer d'expliquer la problématique. Oui. Il faut à la fois jouer la folie pour dire je vais aller jusqu'au bout pour que la dissuasion fonctionne. Il faut montrer qu'on va aller jusqu'au bout et en même temps rester suffisamment rationnel pour ne pas aller jusqu'au bout.
C'est ce paradoxe.
C'est ce que vous essayez.
Mais je voudrais ajouter quelque chose quand même.
Oui.
Alors voilà, c'est que je citais tout à l'heure le livre Daniel Ellsberg qui vient de sortir, qui s'appelle The Doomsday Machine, la machine du jugement dernier. Bon, tout le monde connaît Daniel Ellsberg, même si on ne sait pas qu'on le connaît. On le connaît parce que c'est lui qui a fait publier par le New York Times et ensuite le Washington Post les Pentagon Papers, qui révélaient ce qu'était la guerre du Vietnam. Mais il a aussi mis de côté et copié les plans qu'il avait faits pour McNamara, d'une guerre nucléaire qui, selon le Pentagone à l'époque, aurait fait 600 millions de morts. Un peu moins d'un tiers de la population mondiale. Bon. Voilà les chiffres. Alors,
les chiffres de la fin des années 50.
Oui, absolument. C'est bien, mais d'accord. Oui. Mais les bombes à hydrogène d'aujourd'hui feraient beaucoup plus de morts.
Enfin, au contraire, elles sont beaucoup moins puissantes, mais c'est un autre sujet. Elles n'ont pas les mêmes objectifs.
Mais le problème, je peux terminer
mon raisonnement. Oui, oui. Bon. La dissuasion, donc. D'où le traité ABM, Anti-Ballistic Missile de 1972, signé par Nixon et Brezhnev. Bon. Justement, interdit de se protéger par un bouclier missile, antimissile. Bon. Mais alors, c'est plus compliqué que ça. Et c'est le point que je fais maintenant. Avec une guerre conventionnelle, on a d'une part l'attaque, d'autre part la défense. Bon. Dans le cas de l'arme atomique, il y a un troisième larron, qui est la dissuasion, justement. La défense ne fonctionne pas. Le bouclier antimissile ne fonctionne pas parce que pour qu'il fonctionne, il faudrait qu'il fonctionnât à 100%. Le premier missile qui passerait à travers serait le missile de trop. Et aucune technologie dans le monde industriel ne peut être fiable à 100%. Il y a la dissuasion. On vient d'en parler. On menace l'autre de dommages incommensurables. Ce sont des paroles. Et comme vous dites, vous avez rappelé, on ne se protège pas. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut dire. C'est que la dissuasion, dans sa version pure, si je peux dire, consiste à laisser les missiles de l'autre arriver sur son sol, comme ça on est sûr que vraiment c'est une vraie alerte, et ensuite...
Et à tirer ensuite.
On tire ensuite. Alors on tire ensuite ou on ne tire pas. Et je rappelle dans mon livre les hésitations, pour dire le moins, du président Giscard d'Estaing, qu'il a révélé après ne plus être président, qui n'aurait peut-être jamais... etc.
Dans les plans de dissuasion,
exactement.
Pas dans la réalité.
Alors, ce qu'on peut montrer, enfin ce que mes collègues américains... affirme, c'est que ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. On n'a jamais laissé les missiles de l'autre arriver avant, éventuellement, de tenir sa promesse d'une représailles. Et pour plusieurs raisons, l'une d'entre elles, c'est que si les missiles arrivent, ils détruisent les vôtres. Et vous ne pouvez plus les utiliser. Alors, la doctrine, si on peut dire, américaine, porte le nom de « launch on warning ».
Non.
C'est-à-dire qu'on
lance... Non, ce n'est pas la doctrine américaine. C'est une option parmi d'autres.
C'est pas vrai. C'est pas exact. Alors, c'est pas vrai.
C'est une option parmi d'autres.
C'est une définition parmi d'autres, mais elle est très importante.
Une option parmi d'autres.
Elle est très importante aujourd'hui. Enfin, mes collègues du Centre d'études stratégiques de Stanford considèrent que c'est comme ça que les choses, que c'est la doctrine en cours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on lance ses propres missiles dès qu'une alerte a été faite. Fut-elle vraie ou fut-elle fausse? Bon. Alors, le terme anglais pour dire la chose, d'ailleurs, est tout à fait intéressant, c'est « one rides out ». « To ride », ça veut dire se déplacer, on ride dans une voiture, à cheval, etc. Et « ride out », ça veut dire qu'on laisse passer la tempête, en quelque sorte. On ne réagit pas, on s'accroche aux branches, si vous voulez, et ce n'est qu'après. Alors, la doctrine officielle de la dissuasion, c'est on rides out et c'est uniquement après qu'on lance les missiles. Or, ça n'est pas le cas. On les lance dès qu'on a une alerte et alors ça s'appelle ceci la préemption. Alors le mot préemption est tout à fait bizarre parce qu'il viole l'étymologie. Normalement, c'est acheté avant. Bon, mais aujourd'hui, y compris en français d'ailleurs, en franglais, je devrais dire, on utilise préempter dans le sens d'agir avant l'autre.
Oui, oui.
Bon, alors la préemption, je termine juste. La préemption consiste à attaquer le premier, mais en réaction à une attaque de l'autre qui n'a pas encore eu lieu. Et le surnom de la préemption dit tout. C'est striking second. First, être le premier à attaquer en second.
Oui,
c'est absolument extraordinaire quand même. On inverse le temps là.
Tout à l'heure, on a parlé de deux choses différentes, à mon avis, qui est intéressant d'essayer de distinguer. De deux des paradoxes fondamentaux de la dissuasion, qui en comptent beaucoup. Il y en a un qui est ce qu'on a appelé le paradoxe de la rationalité-irrationalité.
Oui.
Et le deuxième, je vais les expliquer. Le deuxième, c'est ce que moi j'appellerais le paradoxe de la moralité-immoralité. Et c'est le nom que je donne moi pour rester dans les paradoxes, mais que Jean-Pierre Dupuis connaît bien. Le premier, ça consiste à dire que Donald Trump, en 2017, à l'été 2017, il commence à parler comme le font d'habitude les Nord-Coréens. Et donc, il fait ce que
Nixon, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, disait « je joue au fou pour que ça ne se passe pas ». Il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, puisqu'on peut dire qu'il faut paraître un petit peu fou pour que l'autre, justement,
pour que l'autre croit qu'on est susceptible de vraiment,
voilà, et que donc l'autre n'attaque pas. Voilà. Donc un petit peu de folie, ça peut marcher. Le problème, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin. Bon, le problème supplémentaire, c'est qu'avec déjà que Nixon, avec son problème d'alcool entre autres, on pouvait moyennement lui faire confiance. Moi, je ne fais pas du tout confiance à Trump pour jouer justement ce petit grain de folie qui pourrait permettre de garder la paix. Donc ça, là, on est d'accord.
On pourrait aussi dire l'inverse, non ? C'est-à-dire que le problème quand tout le monde se met à faire semblant d'être fou, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que personne n'est vraiment fou. Mais dans le cas de quelqu'un comme Trump, la question se pose pour le coup vraiment.
Oui, mais la question dans la dissuasion, c'est toujours fondamental. La dissuasion, c'est beauty is in the eye of the beholder. La beauté, c'est dans le regard de l'autre. La dissuasion, c'est pareil. C'est pas moi qui décide que je dissuade. C'est est-ce que je pense, est-ce que je sais, est-ce que j'arrive à savoir si l'autre est dissuadé. C'est ça l'art du problème. Alors qu'en fait, ça repose sur quelque chose d'extrêmement simple, encore une fois, c'est de dire, et on peut même dire ça à un enfant, on peut parler du code pénal si vous voulez, c'est de dire ne faites pas ceci, parce que si vous le faites, la pénalité que vous allez recevoir sera supérieure au bénéfice que vous allez retirer de l'agression. C'est ça la base de la dissuasion. Vous faites comme Monsieur Jourdain, on fait de la dissuasion sans le savoir presque tous les jours. Sauf que là, les enjeux sont un petit peu plus importants. Et puis, la question de la moralité, ce que j'ai appelé tout à l'heure le paradoxe de la moralité et immoralité, qui est plutôt, alors là, à mon avis, à mettre avec beaucoup de pincettes, parce que on peut dire, certains dire, il faut pouvoir les menacer les populations civiles directement pour que justement oui. Elles ne soient jamais atteintes. Moi, je suis beaucoup plus réservé. D'abord, je constate qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, en tout cas en termes de planification, on ne planifie plus la destruction délibérée des populations civiles. À mon avis, on a raison parce que ça pose quand même un problème éthique, à mon sens, mais c'est un vrai débat. Si on pouvait démontrer, ce qui est indémontrable, que il n'y a que menacer les populations civiles qui permet d'éviter la guerre nucléaire, alors là, le problème, je dirais, il se pose encore plus. Et donc, on est dans ce paradoxe de la moralité, immoralité. Dernier point sur cette question de la moralité, là encore sur des questions sur lesquelles Jean-Pierre Dupuis reviendra sûrement, c'est que si la dissuasion échoue, faut-il quand même tirer ou pas ? Et c'est une discussion qui est rarement faite, parce que là, on en passe de l'autre côté du miroir, littéralement, au sens de Lewis Carroll. J'ai envie de dire qu'il peut y avoir un débat sur le fait qu'on devrait quand même pouvoir tirer si la dissuasion a échoué. Certains diraient, mais là, ça sera dans une autre émission, parce que c'est un très, très... Il y a un principe qui vient de la philosophie hébraïque, qui vient, le tikkun olam, par exemple, la réparation du monde. Ça. Montrer que le crime ne paie pas. Et il y a certains stratèges qui vous diront, et je crois que ça mérite écoute, pas forcément approbation, mais écoute, qu'il faut pouvoir, justement, montrer que le crime ne paie pas, c'est-à-dire appuyer sur le bouton pour rétablir définitivement la dissuasion.
Alors, je vais intervenir. Il y a plusieurs choses. La question de la moralité et de l'immoralité, il y a d'abord l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de la dissuasion nucléaire commence avec Hiroshima et Nagasaki. Non, mais justement.
Précisément. Il y a de la coercition.
Non, mais justement, c'est précisément là où je veux en venir. C'est-à-dire que pour que la dissuasion se mette à être crédible, il a fallu sacrifier des populations civiles de fait.
Ce sont les images d'Hiroshima et de Nagasaki qui, littéralement, ont créé le pouvoir dissuasif de l'arme nucléaire.
Donc, dès le départ, la question de la prise en otage des populations civiles se pose et elle reste posée pendant tout le long de la dissuasion, y compris aujourd'hui. Il me semble, au moins potentiellement.
Demandez à ceux de vos collègues s'ils ont été otages en Syrie, qui ont été otages en Syrie, s'ils estiment.
Non, mais alors, l'autre. C'était là où je voulais en venir. Ouais. Est-ce que 70 années de stratégie de dissuasion nucléaire qui ont mis les populations civiles au cœur de la problématique militaire ne jouent pas un rôle dans nos états d'esprit d'aujourd'hui et dans le rapport au terrorisme, justement?
Bon, mon livre ne porte pas exactement sur ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. On s'est demandé si la menace nucléaire était à prendre au sérieux ou non, etc. Bon, voilà. Mon livre, c'est pas du tout cela. Je passe par cette phase, bien évidemment. C'est un livre de jugement au nom de la rationalité et au nom de l'éthique. Et ma conclusion, je vais l'énoncer en une phrase qui va sans doute choquer, et avec lequel certainement Bruno Tertrais et moi ne sommes très grands désaccords, je pense. Je dirais la chose suivante. Le simple fait de posséder l'arme nucléaire pour un État, je dis bien posséder, je ne dis pas utiliser. On peut l'utiliser, bien sûr, mais le simple fait de posséder rend cet État criminel. Et criminel, quel type de crime? Crime contre l'humanité. Mmh. Alors je vous rappelle que le crime contre l'humanité, ça a été, sinon, ça a été formulé vraiment dans la forme qu'il a encore aujourd'hui, le 8 août 1945 à Londres. Oui. Bon. C'est-à-dire 2 jours après Hiroshima et la veille de Nagasaki. Mmh. Ça veut dire, ça, c'est la triste ironie de l'histoire relevée entre, en particulier par Günther Anders, que les alliés, ils étaient 4, hein, la France, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et les États-Unis. Alors seuls, bien sûr, à cette époque, seuls les États-Unis avaient la bombe atomique. Donc, le crime contre l'humanité, qui préparait évidemment le procès de Nuremberg, hein, mm-hmm. le procès des nazis, oui, bon, oui. A été fait en plein milieu d'une utilisation parfaitement immorale. Ok. Alors, juste un mot sur la stratégie que je suis pour arriver à un jugement éthique. Que j'essaye de montrer dans ce livre, là je peux simplement dire les grandes lignes, c'est que pour porter un jugement éthique sur la bombe atomique, il faut d'abord, les deux problèmes sont intrinsèquement liés, résoudre la question de l'efficacité ou de la rationalité de la bombe atomique. Alors qu'est-ce que c'est que l'efficacité de la bombe atomique? C'est pas de conquérir des territoires, etc., c'est d'empêcher que la guerre nucléaire ait lieu. C'est ça l'efficacité. La question de l'efficacité, c'est la plus difficile. La question éthique est très facilement solvable dès lors qu'on a résolu la question de la rationalité. Alors évidemment, sur la question de l'efficacité, l'argument que vous lisez partout est vraiment stupide. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire, donc ça prouve que ça a marché.
Hein. Que ça a marché.
Alors, c'est le fameux sophisme.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas évident.
C'est plutôt le fait qu'il n'y ait jamais eu de guerre militaire ouverte. Oui. Majeur entre possesseurs de l'arme nucléaire.
Absolument.
C'est plutôt ça.
Oui, mais c'est ça.
C'est un autre argument.
Mais dire que c'est grâce à la dissuasion, c'est commettre le sophisme.
C'est-à-dire que pour aller un peu vite, ce que vous dites, c'est que en réalité, l'intention criminelle induite par la dissuasion reste présente même quand elle n'est pas suivie.
Alors justement, ma démonstration. Ma démonstration consiste à montrer que c'est pas l'intention.
Voilà. Oui.
Le
mal ne se définit plus par les intentions dont procède l'acte.
Pour montrer que la dissuasion nucléaire est efficace, il faut se placer dans une métaphysique temporelle, plutôt une métaphysique de l'avenir, qui tient l'avenir pour nécessaire. C'était la position d'Aristote, par exemple. Mais peu importe. On n'est pas là pour faire de la philosophie. Bon. Si l'avenir est nécessaire, c'est-à-dire que tout ce qui est possible se réalisera un jour, car si quelque chose ne se réalise pas, pas de guerre nucléaire, alors que c'est impossible, dans cette conception de l'avenir, alors il n'y a plus de différence entre le potentiel et l'actuel.
Et l'actuel.
Potentialité.
Si l'on pense effectivement que la guerre nucléaire, que la probabilité d'une guerre nucléaire à un horizon temporel défini est de 100%, effectivement, les problèmes moraux, éthiques, métaphysiques même, philosophiques, de la dissuasion se posent différents. Dès lors que l'on pense que ça n'est pas 100%, ce qui me semble être, pardonnez-moi, mais du bon sens, on va aller très vite. Si l'on considère que la probabilité de l'échec de la dissuasion est quand même inférieur à 100%, ce qui est mon cas, dans ce cas-là, sur le plan moral, la question est totalement différente. Si l'on estime que le crime contre l'humanité se définit à partir de la simple possession de l'arme, honnêtement, je pense qu'on est dans un ordre juridique qui n'a rien à voir avec celui que nous avons voulu construire depuis 1945.
Mais ce n'est pas l'ordre juridique.
La notion de crime contre l'humanité, c'est un ordre juridique.
Je vais vous arrêter.
C'est un ordre juridique.
Mais oui, mais je pense que Jean-Pierre Dupuis se place sur un plan plus philosophique. C'est-à-dire que
la notion de crime contre l'humanité est une notion juridique.
Mais c'est aussi une notion morale, et la morale est au-dessus du droit.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Lempereur, avec à la technique Pierrick Monsigny et à la réalisation Émilie Valla.
whose bill calls us mad as ham. Let us use bread and wine in our friendship with you, who desire to share a man with Christ. Let us have. Let us have.